RFI.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de factures via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient dans un instant comme tous les matins à cette heure-ci. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité, s'il vous manque des compléments, des clés pour mieux maîtriser les sujets que nous traitons à l'antenne, et bien surtout n'hésitez pas. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez peut-être un complément d'information, vous nous appelez et nos experts ici au sein de la rédaction, nos correspondants, nos envoyés spéciaux vous répondent en direct 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, nous reviendrons sur les engagements d'Emmanuel Macron à destination de l'Afrique. Rappelez-vous, il y a tout juste un an, le président français prononçait son premier grand discours de politique africaine devant les étudiants de l'université de Ouagadougou. D'entrée de jeu, il avait affirmé qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Il avait rappelé qu'il était d'une génération qui n'avait pas connu l'Afrique comme un continent colonisé et qu'il n'allait pas dire à l'Afrique ce qu'elle devait faire. Emmanuel Macron s'était engagé à restituer les œuvres d'art africaines. Il avait également promis de mettre en place des visas de longue durée pour les jeunes diplômés, d'augmenter l'aide publique au développement, de déclassifier des documents sur l'assassinat de Thomas Sankara. Bref, un an après, que faut-il retenir de ce discours? Quel bilan dressez-vous de la politique du président français à destination des pays africains? 33 9 693 693 70. J'ai envie de vous entendre ce matin sur ce sujet. Vos questions donc pour commencer, et on va s'intéresser d'abord aux relations diplomatiques entre le Tchad et Israël. Bonjour Hamza.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Merci, vous êtes à Libreville au Gabon et vous revenez donc sur cette visite inédite du président Idriss Déby à Jérusalem.
Tout à fait Juan. Après 46 ans de rupture diplomatique entre le Tchad et l'Israël, le président Déby s'est rendu en Israël et Netanyahou a annoncé aussi se rendre au Tchad. Alors j'aimerais savoir, pourquoi avoir attendu longtemps pour le rétablissement des relations entre les deux pays?
À 46 ans effectivement, bonjour Guilhem Delteille.
Bonjour Juan, bonjour Hamza.
Correspondant permanent de RFI à Jérusalem, hier, Benjamin Netanyahou a effectivement annoncé que les deux pays vont bientôt reprendre leurs relations diplomatiques, mais précisons tout de même, Guilhem Delteille, que ce n'est pas encore le cas.
Oui, en effet, aujourd'hui, Israël et le Tchad n'ont toujours pas de relations diplomatiques. Elles ont été interrompues, Hamza l'a rappelé, il y a 46 ans, c'était en 1972, et il n'y a toujours pas d'ambassadeur du Tchad en Israël, et inversement. Mais incontestablement, c'est vrai que cette visite d'Idriss Déby en Israël marque un rapprochement fort hein, entre les deux pays. Jamais un président tchadien n'était venu en visite officielle en Israël, même à l'époque où les deux pays avaient des relations. Et Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il se rendrait, lui, bientôt, sans plus de précision, à N'Djamena. Là aussi, ce sera une première. Et c'est au cours de ce déplacement que la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays devrait être officiellement annoncée, probablement dans quelques semaines, selon l'entourage du Premier ministre israélien.
Et rappelez-nous tout de même, Guilhem Delteille, pourquoi ces relations entre le Tchad et Israël ont été interrompues pendant 46 ans?
Bien, depuis sa création en 1948, Israël a cherché à développer ses liens avec les pays africains. Cela répondait à un besoin de reconnaissance hein, de la part de ce nouvel État, alors que son existence était contestée par les pays arabes, ses pays voisins. Donc, et puis il y avait aussi un élan de solidarité. En 1948, Israël a eu le sentiment d'obtenir sa décolonisation après le départ des Britanniques. Le pays s'identifiait donc aux mouvements indépendantistes africains. De premiers contacts ont été établis entre Israël et des pays africains. Des relations diplomatiques établies après les indépendances africaines. Mais dans bien des cas, la guerre des six jours en 1967 est venue changer la donne. À partir de cette date-là, Israël a occupé les territoires palestiniens, la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est aussi, où se trouve l'esplanade des mosquées, qui est le troisième lieu saint de l'islam. Alors pour les pays à majorité musulmane, difficile du coup de reconnaître cette occupation, et notamment l'occupation de Jérusalem-Est. Et même parmi les autres, les pays africains s'identifiaient alors plus à la cause palestinienne. palestinienne, les Palestiniens étant alors perçus comme un peuple colonisé. Cela a entraîné une rupture des relations diplomatiques entre Israël et un certain nombre de pays africains, comme le Tchad en 1972.
Comme les Tchads, effectivement, on se dirige donc vers une reprise des relations entre les deux pays. Pourquoi elles reprennent maintenant, alors que le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens est au point mort ?
Dans ces dernières années, Benjamin Netanyahou a fait de l'Afrique un peu l'une de ses priorités diplomatiques. Le premier ministre israélien veut casser les majorités systématiques en faveur des Palestiniens dans les instances internationales et notamment à l'ONU. Et il estime qu'il peut faire changer de camp certains pays africains. Alors pour cela, il s'appuie sur l'expertise israélienne en matière sécuritaire. Plusieurs pays africains sont confrontés à des rébellions, des mouvements terroristes. C'est le cas du Tchad notamment. Et il met en avant aussi l'expertise israélienne en matière agricole et notamment sur la question de la gestion de l'eau. Idriss Déby a fait une visite lundi dans le Negev, une région désertique du sud d'Israël.
Hamza, vous avez une autre question ?
Oui. J'ai appris que l'Israël vendait déjà des armes au Tchad pour contraindre la rébellion au nord. Donc, peut-on attendre de la signature d'accord entre les deux pays ?
C'est vrai que la coopération sécuritaire entre le Tchad et Israël a été évoquée à l'occasion de cette visite. Y a-t-il eu des signatures de contrat, Guilhem Deltey ?
Mais en fait, Juan, Israël garde un grand secret sur ses livraisons d'armes à des pays étrangers. Rien n'a été annoncé à ce sujet. Mais Benjamin Netanyahou n'a pas démenti que la question avait été évoquée lors du premier entretien entre les deux dirigeants dimanche après-midi. Interrogé à ce sujet, le premier ministre israélien s'est contenté de répondre. On a discuté de ce dont nous avons discuté, une belle palissade, mais qui, ne confirme pas non plus ces ventes d'armes, mais l'absence de négation est interprétée comme une certaine forme de validation, d'autant que Benjamin Netanyahou a bien reconnu qu'il existe une coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme entre les deux pays, que ce sujet a été discuté pour qu'elle soit renforcée. Il n'a juste rien dévoilé de la teneur de cette coopération.
Merci beaucoup, Guilhem Deltey, correspondant permanent de RFI. Bonne journée à Jérusalem. Hamza, merci de nous écouter à Libreville. Je vous souhaite également une belle journée à l'écoute de RFI. 9h17 ici à Paris, appelez-nous. Vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. On va parler maintenant de la République démocratique du Congo. La campagne électorale, vous le savez, bat son plein. Nous sommes à 3 semaines de l'élection présidentielle. Les candidats multiplient les promesses. Bonjour Fulgence.
Bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Oui, le lundi de la semaine dernière, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Sayadari, a présenté son programme pour l'élection présidentielle du 23 décembre. Il prévoit un ambitieux budget de 86 milliards de dollars américains sur 5 ans. Ma question est de savoir comment compte-t-il atteindre cet objectif, sachant que le budget n'est que de 5 milliards de dollars pour l'année 2018.
Oui, c'est une bonne question et on comprend évidemment que vous puissiez vous interroger. Le programme de Ramazani Shadari s'articule sur 4 priorités. Le renforcement de l'autorité de l'État, la diversification de l'économie, la lutte contre la pauvreté et le renforcement géostratégique du pays. Un programme qui, dit-il, est chiffré à 86 milliards de dollars sur 5 ans. Bonjour Patient Ligaudi.
Bonjour Juan, bonjour Fulgence.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Kinshasa. 86 milliards de dollars sur 5 ans. Comment compte-t-il financer ce programme alors que le budget actuel de l'État, Fulgence le rappelait, est d'un peu plus de 5 milliards de dollars?
Oui, mais pour répondre concrètement à la question, Shadari a affirmé que sur les 86 milliards, 56 milliards iront à la construction d'une économie diversifiée et compétitive. Il n'a pas expliqué en détail comment il fera, mais il a dit que 54 milliards proviendront des ressources internes. Il a aussi dit que 23 milliards de dollars proviendront de partenariats publics-privés et de projets de construction, exploitation, transfert. Shadari a cité spécifiquement les projets de barrages hydroélectriques, vous savez, Inga 3, sous le fleuve Congo, d'une capacité de 11 000 mégawatts. Il a également cité la société minière sino-congolaise, donc la Sicomine.
Ouais, donc 86 milliards de dollars annoncés. Martin Fayoulou, candidat de l'opposition, promet lui 105 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Vous qui nous écoutez en RDC, dites-nous si ces chiffres vous semblent réalistes. On a envie de vous entendre. Vous pourrez le faire d'ailleurs vendredi dans le cadre de la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Fulgence, vous avez une autre question ?
Effectivement, oui. Monsieur Shadari aussi vouloir renforcer l'autorité de l'État. Comment compte-t-il s'y prendre?
Patient Ligaudi.
Oui, dans son programme, Ramazani Chadari soutient que deux domaines particuliers constitueront l'essentiel de ses engagements. Il s'agit du renforcement de la défense nationale et de la sécurité intérieure et du renforcement de l'efficacité des institutions publiques. Il ajoute qu'il va éradiquer les germes d'insécurité sur le territoire national, plus particulièrement dans l'est du pays, et mettre fin à ce qu'il appelle le terrorisme et l'activisme de groupes armés. Ainsi, il compte notamment créer des unités antiterroristes, dit-il. Il ajoute qu'il va accroître le volume des effectifs de 50 000 hommes, dont 30 000 dans l'armée, 15 000 dans la police et 5 000 dans la magistrature.
À suivre donc. Avons-nous Élie, puisqu'on me disait il y a quelques instants, Élie, la ligne est trop mauvaise. Élie Aboukavou, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
Eh bien écoutez, pour l'instant les miracles de la téléphonie font des merveilles, on vous entend parfaitement bien alors qu'il y a vraiment 10 secondes. Hors antenne on me disait, la ligne avec Bukavu ne passe pas, elle passe très mal. On vous écoute, vous avez également des questions concernant le programme du candidat de la majorité en République démocratique du Congo.
Oui Ron, Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat de Joseph Kabila, a dévoilé son programme pour les prochaines élections présidentielles en RDC.
Oui.
Maintenant, je voulais savoir, comme il a dévoilé qu'il va créer 100 000 emplois dès la première année de son mandat, de quels moyens pourrait-il disposer pour atteindre cet objectif?
À 100 000 emplois dès la première année de son mandat, en cas de victoire, bien évidemment. Patient Ligaudi, c'est l'une des annonces phares hein, d'Emmanuel Chadari. Comment compte-t-il passer de la parole aux actes?
Pour répondre à Élie, il faut d'abord dire que son programme coûtera 86 milliards, on l'a dit, dont 12 milliards axés sur la lutte contre la pauvreté et axés également aux services sociaux des bases. Comme je l'ai dit tantôt, il a dit que 54 milliards proviendront des ressources internes, 23 milliards de dollars de partenariats publics-privés. Sans donner plus de détails, Chadari explique dans son programme qu'un plan de formation professionnelle en faveur des jeunes sera élaboré de manière à récupérer des milliers d'entre eux qui traînent dans les rues. Sans vraiment chiffrer, hein, il ajoute que des mécanismes d'assouplissement des conditions d'accès au microcrédit seront mis en place à travers la création des institutions financières spécialisées pour le financement des petites et moyennes entreprises, mais aussi des petites et moyennes industries congolaises. Il dit également qu'il compte renforcer l'action du Fonds national de la microfinance dans l'accompagnement et l'octroi des crédits aux activités génératrices de revenus tenues par des jeunes et des femmes. Autre point important, hein, c'est le tourisme. Il dit qu'il va professionnaliser le métier du tourisme par la création de l'Académie du tourisme, dans l'ambition de porter la contribution du tourisme de moins 2% à 6% du PIB d'ici à 2023.
Effectivement. On suivra évidemment la suite de la campagne électorale, notamment avec vous, Patient Ligaudi, correspondant de RFI à Kinshasa. Élie, bonne journée à Bukavu. Merci de nous avoir appelé. Des questions au standard maintenant sur le Brexit, l'accord de sortie de l'Union européenne obtenu par la première ministre britannique, Theresa May. Bonjour, qui avons-nous? Moujouka. Bonjour Moujouka.
Bonjour, Jean Gomez.
Vous êtes au Cameroun, vous nous appelez de Garoua, nous vous écoutons.
Ma question est relative au Brexit.
Oui.
Theresa May doit convaincre le Parlement britannique d'adopter son projet d'accord sur le Brexit. Comment compte-t-elle faire pour obtenir toutes les voix dont elle a besoin, sachant qu'elle a reconnu ne pas être totalement satisfaite?
Alors c'est vrai que la partie est loin d'être gagnée hein, pour Theresa May, elle doit se battre contre une majorité du Parlement qui est hostile à la ratification de cet accord qu'elle a conclu avec les 27. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni. Le vote au Parlement est prévu dans 2 semaines, le 11 décembre. Le plus difficile est à faire pour Theresa May.
Oui, effectivement, Theresa May doit parvenir à convaincre une majorité de parlementaires. Elle sait déjà que parmi les conservateurs, 90 d'entre eux disent qu'ils ne voteront pas l'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrive à convaincre une partie des travaillistes qui aujourd'hui disent qu'ils ne voteront pas non plus l'accord.
Ouais. Mais alors, la question de notre auditeur est pertinente. Comment va-t-elle s'y prendre pour convaincre tout ce monde ?
Alors, elle a déjà commencé à essayer de convaincre la population britannique en envoyant un courrier à la Nation dimanche dernier où elle explique que l'accord qu'elle a obtenu, c'est un bon accord, qu'il permet de retrouver notamment la liberté de mouvement, la liberté de contrôler la circulation des travailleurs, qu'il permet au Royaume-Uni de reprendre le contrôle sur les questions de financement du budget européen, par exemple. Et elle fait campagne depuis deux jours à travers le Royaume-Uni. Elle était hier en Irlande du Nord, au Pays de Galles. Aujourd'hui, elle part en Écosse pour essayer de convaincre qu'il faut absolument signer cet accord.
Oui.
Donc, son espoir, c'est que, en fait, les citoyens disent à leurs députés, oui, votez cet accord parce que sinon, il n'y aura rien de mieux et on risque d'entrer dans une situation très chaotique pour
donc,
le Royaume-Uni.
Donc, elle a décidé de s'adresser directement au peuple avec cette lettre, avec cette tournée qu'elle a donc entamée hier. Mais en même temps, quand on regarde les sondages, faut-il les croire? Mais en même temps, oui, moi je les crois, par exemple. Un sondage nous dit que seuls 23% des Britanniques soutiennent son accord. Donc là aussi, elle aura du mal à convaincre le peuple.
Oui, oui, tout à fait, elle aura du mal. Le peuple britannique est très divisé aujourd'hui. Hein. Quand on regarde les différents sondages, effectivement, faut-il les croire, comme vous dites. En fait, certains nous disent que les Britanniques voteraient aujourd'hui en majorité pour rester, et d'autres qu'ils voteraient en majorité pour sortir. Donc, c'est vraiment très difficile de se dire aujourd'hui, avec précision, ce que voteront les parlementaires le 11 décembre.
Alors justement, Moujouka, une autre question à vous poser, Catherine Mathieu. Moujouka.
Oui, Monsieur Rouen. Le deuxième point de ma question est ceci. Quelles seraient donc les éventuelles conséquences d'un rejet de l'accord par le Parlement britannique?
Donc, si la Chambre rejette l'accord le 11 novembre, que va-t-il se passer? C'est un peu ça votre question, Catherine Mathieu. Y a-t-il différents scénarios possibles?
Oui, il y a différents scénarios possibles. Un premier scénario est que Theresa May décide de retourner à Bruxelles, essayer d'obtenir quelques modifications de l'accord qu'elle a obtenu avec l'Union européenne et propose une version donc légèrement modifiée de l'accord au Parlement britannique deux semaines après le vote. Une autre possibilité est qu'elle se dise que ce sera vraiment trop difficile d'obtenir l'accord des parlementaires et donc qu'elle décide en fait de démissionner et qu'elle provoque éventuellement des élections anticipées. Ça, c'est le deuxième cas possible qui serait peut-être le plus conforme, je pense, pour Theresa May au fait que son accord a été rejeté.
Donc elle pourrait démissionner d'elle-même ou peut-être que son propre camp la pousserait à démissionner avec une motion de défiance?
Ça, ce serait assez difficile parce que ceux qui essayent de pousser Theresa May à la démission depuis plusieurs semaines sont relativement peu nombreux. Hein. Il y a eu la semaine dernière une cinquantaine de députés conservateurs qui ont essayé effectivement de faire partir Theresa May en proposant une motion de défiance, mais il faudrait qu'il soit au moins 98. Et aujourd'hui encore, Theresa May a parmi les députés conservateurs un certain nombre de députés qui sont d'accord avec sa démarche, ou du moins qui ne voient pas qui d'autre pourrait prendre la direction du parti conservateur et mener des négociations sur le Brexit de façon plus favorable pour le Royaume-Uni que l'a fait Theresa May jusqu'à présent.
Catherine Mathieu, pour aller un peu plus loin que la question de Moujouka sur les conséquences d'un éventuel rejet de cet accord par le Parlement, peut-on imaginer un nouveau référendum?
On peut imaginer un nouveau référendum. Aujourd'hui, c'est quand même assez difficile parce que dans la tradition britannique, très démocrate, on dit il y a eu un référendum, le peuple a voté et il faut respecter ce vote. C'est aujourd'hui ce que dit Theresa May. Et ce que dit aussi Jeremy Corbyn. Bon, maintenant, s'il n'y a pas d'accord les parlementaires britanniques dans deux semaines, le scénario le plus probable, me semble-t-il, serait qu'il y aurait des élections. Si les travaillistes les gagnaient, ce que suggèrent les sondages aujourd'hui, Jeremy Corbyn essaierait en premier lieu de renégocier un accord plus favorable pour le Royaume-Uni. Et un second référendum ne serait vraiment qu'une solution de dernier recours.
À suivre donc. Merci beaucoup Catherine Mathieu d'avoir pris le temps ce matin pour répondre à Moujouka qui nous appelait de Garoua. D'autres questions à la rédaction et à nos experts demain évidemment. D'ici là, vous nous appelez. On a besoin de connaître évidemment avant de commencer l'émission vos questions pour contacter nos correspondants, nos spécialistes, nos experts ici au sein de la rédaction. Restez avec nous tout de suite le journal et on reviendra dans 10 minutes pour parler de la politique africaine, du président.